Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Président Prabowo et Premier ministre malais discutent des questions frontalières et des investissements. Ministre coordinateur Erlangga reçoit la visite d'adieu de l'ambassadrice d'Australie-Indonésie. Bakamla et les gardes-côtes chinois discutent du suivi de la déclaration conjointe Indonésie-Chine. L'Université Hasanuddin et l'Université Normale de Fujian présente le centre UNHAS en Chine. Indonésie et les États-Unis élargissent les bourses d'études pour les établissements d'enseignement soutenus par le ministère de la Religion. Menkom Digi espère que l'investissement d'Apple sera plus grand que celui de Microsoft. Investisseurs chinois investissent 600 milliards de roupias dans la zone industrielle intégrée de Batang. Voici le journal complet. Le premier ministre malais Anwar Ibrahim a admis avoir discuté d'un certain nombre de questions lors d'un déjeuner avec le président Prabowo Subianto à la maison Tangsi à Kuala Lumpur en Malaisie jeudi 1er septembre. Comme l'a rapporté Antara, les questions discutées allaient des frontières au recrutement de main-d'œuvre en passant par la coordination des affaires des pêcheurs dans la zone contestée du détroit de Malacca, le commerce, l'investissement, l'économie, la socioculture, la défense et la sécurité. Les deux chefs d'État ont profité de cette brève rencontre pour renforcer les relations étroites qui existent jusqu'à présent. Le premier ministre Anwar accueille et offre un déjeuner au président Prabowo après l'ouverture du Forum économique malais 2025 au Centre des congrès de Kuala Lumpur, KLCC. Il a également accompagné Prabowo à son retour au complexe de l'aéroport international de Kuala Lumpur, KLIA, à Sepang, Selangor, en Malaisie. Le ministre coordinateur des affaires économiques, Erlangga Hartarto, a reçu la visite de l'ambassadrice d'Australie-Indonésie, Penny Williams, au bureau du ministère coordinateur des affaires économiques à Jakarta, mercredi 8 janvier. Comme l'a rapporté le ministère de coordination des affaires économiques jeudi 9 janvier, l'ambassadrice Penny a effectué cette visite vers la fin de son mandat d'ambassadrice d'Australie-Indonésie. Penny a déclaré que 2025 sera une année importante pour le monde et les deux pays. L'Indonésie met actuellement en œuvre son nouveau gouvernement et l'Australie organisera des élections générales en mai. Parmi les sujets abordés lors de la réunion figurait l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, l'amélioration du système commercial et la coopération économique entre l'Indonésie et l'Australie pour soutenir un commerce équilibré et mutuellement bénéfique. Pendant ce temps, Ailanga a remercié Penny pour ses efforts visant à établir et à renforcer les relations entre les deux pays. Il espère que les relations de coopération entre les deux pays pourront se poursuivre et se renforcer. L'Indonésie et l'Australie célébrent 75 ans de relations diplomatiques en 2024. L'Agence indonésienne de sécurité maritime, Bakamla, et les gardes-côtes chinois ont discuté de suivi de l'accord entre le président Prabowo Subianto et le président chinois Xi Jinping à Pékin, en Chine, le 9 novembre, concernant la sécurité maritime et la sûreté de la navigation dans la région des deux pays. Comme l'a rapporté Antara jeudi 9 janvier, la délégation indonésienne dirigée directement par le chef de Bakamla, le vice-amiral TNI Irwansa, est arrivée à Pékin, en Chine, mercredi 8 janvier. Ils ont été accueillis par le directeur général des gardes-côtes chinois, le général de division Yu Zhong. Le chef de Bakamla Irwansa a déclaré lors de la réunion que cette réunion n'était pas seulement un symbole de la relation étroite entre les deux institutions, mais aussi un engagement commun à créer une zone maritime sûre, pacifique et prospère. Les deux délégations ont discuté d'un certain nombre de questions stratégiques, y compris le renforcement de la coopération bilatérale et des partenariats dans un cadre multilatéral dans le secteur maritime. Cette réunion devrait renforcer la synergie entre les pays pour faire face aux défis maritimes mondiaux. L'Université Hasanuddin Unhas de Makassar dans le sud de Sulawesi et l'Université Normale de Fujian, FNU, en Chine, ont signé un protocole d'accord entre autres pour la création du centre Unhas à la FNU, Fuzhou, Chine. Le recteur de l'Unhas, Jamaluddin Jompa, a déclaré dans un communiqué reçu par Antara jeudi 9 janvier que cette collaboration renforcerait les relations entre les deux pays sous la forme d'une diplomatie scientifique mutuellement bénéfique. Jamaluddin a expliqué que le centre Unhas était conçu sous la forme d'une maison de la culture indonésienne, tandis que la FNU fournissait une salle spéciale qui serait utilisé comme centre d'information et de promotion géré par Unhas. Selon lui, FNU a été choisi comme site pour l'installation du centre Unhas en Chine parce que Fuzhou est une ville d'affaires qui a de nombreux liens historiques avec l'Indonésie. Pendant ce temps, le recteur de la FNU, Zheng Jiajian, a salué cette collaboration stratégique. Selon lui, Unhas est l'une des meilleures universités d'Indonésie qui a développé beaucoup de recherches et d'innovations dans divers domaines. L'Indonésie et les États-Unis ont convenu d'étendre le programme de bourse Fulbright aux personnes et aux institutions soutenues par le ministère indonésien de la Religion. Comme l'a rapporté rri.co.id, le ministre de la Religion, Nasaruddin Umar, et l'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Kamala Shirin Lakhdir, ont signé un protocole d'accord concernant ce programme jeudi 9 janvier. Cet accord ouvre des opportunités aux étudiants ou aux universitaires des établissements d'enseignement soutenus par le ministère des Cultes de recevoir des bourses pour étudier ou faire des recherches aux États-Unis. D'autre part, les universités et les étudiants américains ont la possibilité d'enseigner et de mener des recherches dans des établissements d'enseignement soutenus par le ministère de la Religion. Les madrasas ou les internats islamiques peuvent également inviter des assistants d'enseignement Fulbright pour enseigner l'anglais dans leurs établissements. L'ambassadrice Kamala espère que le programme Fulbright donnera les meilleurs résultats aux institutions et aux universitaires du ministère de la Religion. Dans le même temps, le ministère de la Religion a déclaré que ce programme est un effort visant à continuer d'élargir l'accès aux bourses pour les étudiants et les élèves des internats islamiques des établissements d'enseignement soutenus par le ministère de la Religion. Fulbright est un programme d'échange universitaire du gouvernement des États-Unis qui fonctionne dans plus de 160 pays. La ministre indonésienne de la Communication et du Numérique, Menkom Dizi, Metia Afid, espère que la valeur de l'investissement en Indonésie du géant américain de la technologie Apple sera supérieure à celle de son rival Microsoft. De plus, Apple va construire une usine d'accessoires AirTags en Indonésie avec un fonds d'investissement qui, selon elle, est assez important. C'est ce qu'a déclaré Mutia jeudi 9 janvier, rapporté par RRI.co.id. Mutia a estimé que le faible d'investissement d'Apple en Indonésie était dû à la qualité des ressources humaines dans le secteur des technologies de l'information. Toutefois, la ministre de la Communication et du Numérique a souligné que cela ne pouvait pas être une raison pour ne pas investir en Indonésie. Selon elle, Apple peut aussi construire des usines tout en formant des personnes compétentes. Auparavant, Apple s'est engagé à investir dans la construction d'une usine d'accessoires AirTag en Indonésie. La valeur d'investissement devrait atteindre 1 milliard de dollars américains, soit environ 16,2 millions de rupiah. Pendant ce temps, l'investissement de Microsoft en Indonésie a été enregistré à 1,7 milliard de dollars, soit environ 27,5 millions de rupiah. L'investissement servira à construire de nouvelles infrastructures en Indonésie liées au cloud computing et à l'intelligence artificielle au cours des 4 prochaines années. Kawasan industri terpadu KIT Society Anonyme de Batang dans le centre de Java a déclaré que l'investisseur chinois Elecmetal Longteng Indonesia Society Anonyme avait investi 600 milliards de rupiah dans la région. Comme l'a rapporté Antara, le président directeur du KIT Batang Ngurah Wirawan dans la région de Batang a déclaré jeudi 9 janvier que la présence de l'industrie métallurgique était la preuve de l'attractivité de la région en tant que centre d'investissement mondial. Selon Ngurah, en plus de soutenir la croissance industrielle, ce projet créera des emplois et de nouvelles opportunités économiques pour la communauté environnante. La zone industrielle intégrée de Batang est conçue comme une ville industrielle moderne équipée de diverses installations de soutien telles que des hôtels, des écoles et des centres de divertissement. Tous les processus de l'octroi de licence à l'infrastructure seront assurés de se dérouler sans heurts, afin de produire un impact optimal sur l'économie nationale. Avec la vision de devenir un leader du marché Indonésie et le soutien total du gouvernement, Ngurah espère que cette usine deviendra une force motrice pour la transformation de l'industrie métallurgique nationale. Jusqu'à 85 à 90% de la production de l'usine de 4,99 hectares sera exportée, l'Australie étant le principal marché. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Oh, Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour la mission des commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Zone de transmigration devient un nouveau centre économique » avec moi, Audrey. Chargé de terre, la transmigration est un programme visant à déplacer des personnes de zones densément peuplées vers des zones moins densément peuplées. En Indonésie, la transmigration est l'un des programmes de population du gouvernement mis en œuvre depuis les années 1950. Ce programme a été lancé comme solution pour surmonter le problème de la densité des populations dans plusieurs endroits, notamment dans certaines zones de l'île de Java. L'objectif principal est l'égalité de la population et l'amélioration du bien-être de la communauté. Jusqu'à présent, la transmigration fait toujours partie de la politique du gouvernement indonésien. Cependant, la forme de la politique gouvernementale concernant la transmigration a subi de nombreux changements. Le programme de transmigration ne consiste pas seulement à déplacer les Indonésiens des zones densément peuplées vers des zones moins densément peuplées. Le ministre coordinateur des infrastructures et du développement régional, Agus Harimurti Yudhoyono, lors d'une conférence de presse à son bureau mercredi 8 janvier 2025, a souligné que le programme de transmigration à l'ère de l'administration du président Prabowo Subianto porte un nouveau paradigme. Il ne s'agit pas seulement de déplacer des personnes, mais de mettre l'accent sur le développement de pôles de croissance économique dans les zones de destination de la transmigration. Ces zones doivent être développées pour devenir de nouveaux centres économiques indépendants et durables, afin qu'ils puissent offrir un avenir prometteur aux transmigrants. Le ministère de la Transmigration a noté que, à la fin de 2024, il y aura un total de 419 zones de transmigration réparties dans toute l'Indonésie. 153 d'entre eux nécessitent une attention particulière de la part du gouvernement. Parmi ceux-ci, 45 domaines ont été déclarés prioritaires dans le plan national de développement à moyen terme 2025-2029. Développement, une zone de transmigration n'est certainement pas chose aisée. Cela nécessite une coopération synergique entre diverses parties. Le vice-ministre de la Transmigration, Viva Yoga Mauladi, a déclaré à Jakarta jeudi 9 janvier que les ministères sous les auspices du ministère de coordination des infrastructures et du développement régional travaillant ensemble pour continuer à développer les zones de transmigration en nouveaux centres de croissance économique. Le gouvernement ne peut certainement pas travailler seul au développement des zones de transmigration pour en faire de nouveaux centres de croissance économique. Il est nécessaire de collaborer avec le secteur privé, notamment pour développer des produits de qualité supérieure dans les zones de transmigration afin de ne pas se concentrer uniquement sur le secteur agricole, mais également cibler d'autres secteurs d'activité tels que ceux de l'élevage, du tourisme et des plantations. Bonjour, je t'en c'est tout. Le commentaire.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 10 janvier 1946. La première Assemblée générale des Nations unies s'est tenue. L'Assemblée générale des Nations unies est un forum où les représentants de tous les États membres de l'ONU se réunissent chaque année au même endroit et l'un des 6 principaux organes de l'ONU. La première Assemblée générale des Nations unies s'est tenue le 10 janvier 1946 au Methodist Central Hall à Londres, en Angleterre. À cette époque, l'Assemblée générale des Nations unies a été assistée par 51 pays, Depuis 1951, l'Assemblée générale des Nations unies se tient toujours au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis, et aujourd'hui ont été participés par plus de 190 pays. Le 10 janvier 1996, manifestation d'étudiants indonésiens exigeant Tritura. Des milliers d'étudiants membres de l'Union Action étudiant indonésienne, ou KAMI, ont organisé une manifestation à grande échelle le 10 janvier 1966 à Jakarta, en Indonésie. L'action est célébrée pour ses revendications, appelées les trois revendications du peuple, ou Tritura. Tritura contenait des demandes visant à dissoudre le Parti communiste indonésien, à remanier le cabinet Dwi Korra du président Sukarno et à baisser le prix. La lecture des revendications a été effectuée à la faculté de médecine de l'Université d'Indonésie. Selon si.kemdikbud.go.id, le mouvement de manifestation a duré 5 jours. Cette action a abouti au transfert du gouvernement de l'ancien ordre dirigé par le président Sukarno au nouvel ordre dirigé par le président Suharto. Aujourd'hui, le 10 janvier, est célébré comme la journée de la Tritura. Le 10 janvier 2004, attentat à la bombe à Palopo, Sulawesi Central. Une bombe a explosé le 10 janvier 2004 dans le café à Bukit Sampudo, Palopo, Sulawesi du Sud, l'Indonésie. La bombe a explosé vers 10h30 heure locale. L'explosion en attendu dans un rayon de 2 km a fait 4 morts et 3 blessés. 4 personnes ont été arrêtées pour avoir perpétré l'attentat et condamnées à 20 ans de prison. L'un des auteurs, Jasmine Bin Kassau, a admis qu'il avait fait délibérément pour lutter contre le mal dans les boîtes de nuit, même s'il devait tuer des personnes non armées. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Mendewasakanku. Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie. Et pour le titre, le gouvernement indonésien optimise le potentiel de la pêche de Java East pour soutenir l'autosuffisance alimentaire. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche optimise l'augmentation de la production halieutique dans la province de Java Oriental pour soutenir la réalisation de l'autosuffisance alimentaire en 2027. Une stratégie visant à accroître la production consiste à développer les activités de culture de la pêche. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wayutrenggono, lors de la réunion de coordination alimentaire à Surabaya dans l'est de Java, comme l'a rapporté Antara mercredi 8 janvier. Le ministre Trenggono a également déclaré que Java Oriental avait un grand potentiel dans le secteur de la pêche, à la fois dans la pêche de capture et dans l'aquaculture. Selon les registres du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, la production halieutique totale de Java Oriental en 2023 a atteint 1,2 tonnes avec une valeur de production de 27,46 billions de roupies. Même pour les exportations en 2024, elles atteindront 1,5 million de dollars américains, soit 27,99% de la valeur totale des exportations. Le ministre Trenggono a également expliqué que pour réaliser l'autosuffisance alimentaire basée sur les protéines de poisson dans l'est de Java, son parti augmentera la production halieutique grâce à la culture qui était jusqu'à présent le principal moteur de l'économie. Depuis la période 2020-2023, la production moyenne de l'aquaculture est supérieure à celle des pêches de capture. La production de la pêche de capture a atteint 536 000 tonnes, tandis que celle des poissons d'élevage a atteint 598 000 tonnes. En plus de maximiser le potentiel de culture existant, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche revitalisera également 27 110 hectares de zones d'étang inutilisées pour les rendre plus productives pour la culture de tilapia. La revitalisation de 27 110 hectares de zones d'étang à Java Oriental fait partie du programme de revitalisation de 78 hectares d'étangs inutilisés le long de la côte nord de Java, de Banten à Banyuwangi à Java Oriental. Il existe au moins 8 districts et villes qui abritent des zones d'étangs inutilisées dans l'est de Java. Par conséquent, le ministre Trenggono a demandé à tous les chefs et appareils régionaux de collaborer avec le centre pour réaliser le plan de revitalisation. Il est connu que le ministère des Affaires maritimes et de la pêche revitalisera 78 hectares d'étangs inutilisés sur la côte nord au Pantura de Java pour les rendre plus productifs pour la culture de tilapia salin. La mise en œuvre du projet de revitalisation de l'étang est prévue pour débuter en 2025. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Memendam rasa, namun tak saling menyapa. Berharap terang akan menjelang, mengantarkan jawaban.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel intitulé Jenang de Vesta ou Jenang Jacket, Banyumas, Java Central, avec Maudry. Ce jeter, le dodol ou Jenang est un plat culinaire à base de farine, de riz gluant, de lait de coco et de cassonade. Le Jenang est un plat culinaire classique qui existe depuis l'époque de l'ancien royaume de Mataram. Cette cuisine est facile à trouver dans différentes régions d'Indonésie avec chacune leur propre caractère unique. Par exemple, dans la région de Banyumas, dans le centre de Java, il y a Jenang Jacket ou Jenang Vesta. Jenang Jacket a une texture mouleuse avec un goût unique. Chers amis, le nom Jacket pour ce plat culinaire est un acronyme de Jenang Asli Ketan, car l'ingrédient principal de ce plat est du vrai riz gluant qui est traité de manière à produire une texture douce avec un goût sucré distinctif. En plus du riz gluant, Jenang utilise également du lait de coco. L'utilisation de lait de coco donne un goût savoureux à cet aliment. N'oubliez pas le sucre roux ou le sucre de palme. Le sucre de palme donne au Jenang Jacket sa couleur brunâtre distinctive. Le processus de fabrication du Jenang Jacket est assez long et nécessite de la patience et de la persévérance. Cher Jeter, cette collation traditionnelle peut être facilement trouvée sur les marchés traditionnels ou dans les boutiques de souvenirs de Banyumas. Il existe deux variantes de Jenang Jacket, à savoir le Jenang Jacket Nature et le Jenang Jacket au Sésame. Le prix par paquet n'est pas très différent. Pour le Jenang Jacket Nature, un paquet coûte environ 16 000 de roupies, tandis que la variante au sésame coûte 17 000 de roupies. Pour ce jeter, c'est tout, le magazine culturel.
That you're the one. Got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done. But this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock. Then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go. They're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Hey.
No tears. Yes, I got this. Don't shed no tears. I'll find my own bliss.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée Indonésie présente les 8 meilleures destinations en Asie en 2025 pour éviter le surtourisme. Avec Maudry. Ça jette l'île de Sumba, connue pour sa beauté naturelle en chanteresse et sa culture traditionnelle authentique, a une fois de plus attiré l'attention du monde international. Cette fois, l'île située à Nusa Tenggara orientale est incluse dans la liste des 8 meilleures destinations en Asie 2025. Par un magazine de voyages de premier plan, la sélection est basée sur un effort mondial visant à trouver des destinations qui favorisent la durabilité et évitent les impacts négatifs du surtourisme. Il existe 8 destinations en Asie qui couvrent des endroits qui étaient auparavant difficiles à atteindre ou négligés, mais qui ont un attrait incroyable. De plus, ces destinations recommandées offrent également des alternatives aux endroits qui ressentent la pression des impacts du surtourisme. Chargeta en tête de la liste des destinations recommandées par Time Out pour 2025 se trouve Sumba, une île indonésienne immaculée située à environ 50 minutes de vol de Bali. Forbes avait déjà recommandé de visiter Sumba l'année prochaine. Sumba offre une beauté naturelle difficile à égaler. Des plages de sable blanc comme la place de Nihiwatu, des cascades spectaculaires comme la cascade de Waikelusawa, aux visites collines verdoyantes comme la colline de Wairinding. Chaque coin de Sumba est un paradis pour les amoureux de la nature. Cependant, derrière sa beauté, Sumba reste protégé des foules de touristes que l'on voit souvent dans d'autres destinations populaires. Ça, je vais dire, l'une des principales attractions de Sumba est sa culture locale richesse et bien préservée. Les cérémonies traditionnelles telles que la passola, qui implique des promenades à cheval en guise de respecter environ les ancêtres, attirent les touristes qui souhaitent vivre une expérience unique à notre artisanat typique de Sumba. Le tissage ikat avec ses motifs significatifs est un symbole de fierté pour la communauté locale, pour les touristes. Sumba est la réponse pour ceux qui recherchent une beauté naturelle intacte, une culture authentique et une tranquillité difficile à trouver ailleurs. Et pour le monde, Sumba est un symbole d'espoir que le tourisme peut prospérer sans sacrifier ce qui rend une destination si spéciale. Bon, chargeur, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Berlalu di hadapanku, tatapku. Oh, kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Things in life may seem hard, seem tight, not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Pour a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. The ego you have,
emotions I left. Don't let them get you.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission des magazines musicales. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson pop régionale du Kalimantan du Sud, intitulée Marista. Cette chanson est également connue sous le titre Asa Malibu Hati. Ce jour, les paroles de la chanson Marista sont présentées dans un pantoun typique de Banjar. Le contenu décrit l'anxiété de quelqu'un qui déplore son sort. Les paroles de cette chanson racontent la tristesse d'une femme qui a été abandonnée par son amant. Le chagrin qui ne disparaît jamais, ressenti jusqu'au os en voyant mon amant bien-aimé, maintenant parti, volé par quelqu'un d'autre. Bonjour, auditeurs, voici la chanson intitulée Marista, chantée par Putri Shahila. Bonne écoute!
Tak lanjur pun, melihat pian sudah berdua. Hati dah
Zeritok, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.